L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques, toujours avec Jonathan Junior Mambou sur la parabole du Samaritain. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui venez de nous suivre, de nous rejoindre, je voulais dire.
Merci pour ce temps de sacrifice, ce temps de disponibilité qui te rend au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter tous à baisser la tête dans la prière quelques secondes pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton messager. Bénis ce message, bénis ces hommes et ces femmes par millions qui nous écoutent au travers de la radio, sur Internet, par Radio FM, Seigneur. Bénis chacun d'entre eux, bénis ce message, Seigneur. Fais-nous comprendre ces riches renseignements, enseignements sur la parabole du Samaritain. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Par Luc 10, verset 30. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le conduisit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, puis le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour nous aujourd'hui par rapport à cette parabole?
Que Dieu soit béni pour cette parabole. Le Samaritain qui passait et pour sauver cet homme qui était tombé entre les brigands, il versa de l'huile et du vin. L'huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu, montrant que le Seigneur nous envoie toujours son Esprit pour nous ramener vers lui, mais aussi le vin, qui est l'image du sang de Jésus, montrant l'amour de Dieu, qui pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de grand péché ou de petit
moyen péché
qui peut faire en sorte que Dieu puisse pardonner tel par rapport à l'autre, non. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Exode chapitre 12, je peux lire le verset 11. La Bible dit, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai
le pays d'Égypte.
Donc, le Seigneur est clair. Il verra le sang et il passera. En fait, l'ange destructeur, ce jour-là, avait tué beaucoup. En fait, le malheur était arrivé dans des maisons qui n'avaient pas mis le sang sur le poteau, les poteaux et les linteaux de leurs portes. Et l'ange destructeur est entré, il a tué. Parce que le Seigneur avait donné l'ordre de mettre le sang sur le poteau et les linteaux. Mais malheureusement, toutes les maisons n'avaient pas exécuté cet ordre à la lettre. Peut-être pour les uns, ils n'étaient pas informés. Pour les autres, peut-être c'était une négligence. Et peut-être qu'il y a eu des premiers-nés qui sont morts, tout simplement peut-être parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. C'est-à-dire, ils ont peut-être, si ce jour-là, l'un d'eux était dans une discothèque ou bien il était dans une autre maison qui n'avait pas exécuté ce principe, eh bien, le premier-né était décédé.
Était décédé.
Voilà. Donc, Dieu veut voir le sang. Le sang pour nous épargner. Mais je ne parle pas de sang des hommes, de la terre, mais c'est le sang de Jésus. Parce qu'en fait, s'il fallait mettre le sang dans les poteaux et les linteaux des portes, n'oublions pas également que notre cœur est une porte. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Cette porte-là de ce texte que je viens de réciter, eh bien c'est le cœur. Et Dieu veut voir dans le cœur des chrétiens le sang. Voilà. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, le sang tel que l'ennemi ne peut nous atteindre. Ça c'est très important. Donc Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus fait que nous soyons saints aux yeux de Dieu. Notre sainteté vis-à-vis de Dieu n'est pas le fruit des actes humains, non. C'est le fruit simplement de la justification que Dieu nous donne lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Le sang purifie le pécheur. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Et nous l'avons dit, nous le disons parce que quand Jésus-Christ a versé le vin, on peut pour dire le Samaritain, quand il versait le vin sur cet homme qui était tombé entre les mains des brigands, en fait, c'était le seul moyen pour lui de ramener cet homme à Jérusalem.
Éphésiens 1, verset 7.
Oui.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce.
Voilà. Par Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. Son sang nous rachète, nous sauve et nous pardonne de tout péché. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La grâce de Dieu, lorsqu'on la voit aussi, c'est une grande richesse dans le sens où s'il faudra considérer les erreurs de chacun. Il y a des hommes qui ont tué, il y a des hommes qui ont tué peut-être par l'occultisme ou même physiquement, qui ont commis pour eux, selon eux, des grands péchés. Mais quand ils réalisent que Dieu pardonne leur vie, en tout cas aucun homme ne peut faire comme Jésus. Il y a que Jésus qui puisse faire ça. Hein? Il te dit, non, crois en moi, je te pardonne. Même si tu as avorté, même si tu as commis un mal qui mérite la condamnation sur terre, pour moi je te pardonne. Hein, ça c'est très important. Donc c'est une grande richesse. Hein, c'est que l'homme ne peut pas facilement pardonner, Dieu pardonne. Hein, je me rappelle que j'ai vu un homme de Dieu il y a très longtemps. Cet homme de Dieu me dira que quand il était enfant, son père était tué par quelqu'un physiquement. Et plus tard, quand il s'est converti, il a rencontré cet homme. Mais il l'a pardonné. J'ai dit, ah, c'est pas facile.
C'est pas facile.
Il dit, je l'ai pardonné, ça ne me fait plus rien. Le Seigneur m'a donné la force. En fait, Dieu, il est plus que les hommes. Il pardonne tout péché. Tout péché. C'est un peu comme cette femme adultère qui se retrouvèrent au milieu des gens qui voulaient la lapider. Jésus-Christ, qui avait éprouvé toutes ces personnes en disant, bon, qui de vous n'a jamais commis le péché? C'est lui qui l'a jamais fait, qu'il commence en premier lieu à lancer la pierre. Depuis le plus âgé jusqu'au plus jeune, aucun n'avait pu faire cette chose, n'avait pu exécuter cette pensée du Seigneur. Alors ils sont partis. Et Jésus va dire à cette femme, apparemment personne t'a condamné. Oui, personne ne m'a condamné. Ok, moi également, je ne te condamne pas. Va. Voilà. Il ne nous condamne pas si nous revenons à lui. Il ne nous condamne pas si nous retournons à lui. Son sang est toujours là en permanence pour que nous soyons protégés et pour que tous nos péchés soient effacés. Éphésiens 2, 13. Toujours. Ça vante encore le sang de Jésus. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Voilà, un autre travail du sang de Jésus. C'est que lorsque nous quittons Jérusalem pour descendre à Jéricho, nous nous éloignons, mais par le sang, Dieu nous rapproche de lui. C'est vrai que déjà dans ce verset 13, nous voyons aussi ceux qui sont éloignés, ce sont les nations. Parce qu'en fait, les Juifs étaient proches, mais les nations étaient éloignées. Hein, si on peut lire ça un peu pour donner une idée, je prends le verset 11, Éphésiens 2, 11. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui les sont en la chair par la main d'homme. Donc ça c'est clair. C'est-à-dire les païens, les nations étaient des incirconcis, mais les juifs étaient circoncis par la circoncision, bien entendu. Et les incirconcis, aux yeux des juifs, étaient éloignés, mais les circoncis étaient proches. Maintenant, nous continuons. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ce que nous étions, nous les Français, nous les Égyptiens, nous les Sud-Africains, nous les Congolais, nous les Gabonais, etc., etc. Nous étions éloignés par rapport aux Juifs parce que eux, ils avaient Christ, car c'est Christ et parce qu'en fait Christ est issu des Israélites. Ils avaient droit de citer en Israël parce qu'ils étaient Israélites. Ils n'étaient pas étrangers aux alliances parce que ils héritaient des alliances d'Abraham, tout ça, des promesses. Ils n'étaient pas sans espérance. Ils avaient leur espérance. Mais nous, on était sans espérance, sans Christ, sans droit de citer en Israël parce qu'on n'était pas israélite. Mais à cause de Jésus, aujourd'hui, nous avons Christ. À cause de Jésus, aujourd'hui, nous sommes Israël, l'Israël spirituel. Nous ne sommes plus étrangers en ce qui concerne les alliances et les promesses que Dieu a données aux enfants d'Israël parce que par Jésus-Christ, nous sommes aussi des Juifs.
Tout à fait.
Et nous ne sommes sans espérance et sans Dieu dans le monde. Non, nous avons une espérance glorieuse. C'est que le Seigneur viendra, il nous amènera dans sa maison et il ne tiendra pas compte du fait que vous soyez ivoirien et non israélite. Non, il tiendra compte du fait que vous avez reçu Christ. Et quand on reçoit Christ, il nous purifie par le sang de Jésus. Voilà. Le verset 13. Et d'ailleurs, pour donner cet exemple, lorsqu'on retourne en Égypte, pour ceux qui sont sortis, il n'y avait pas que les Israélites. Il y a eu même des Égyptiens qui sont sortis. Donc, c'était des Égyptiens qui ont cru au message de Moïse. Tous les Égyptiens, c'est-à-dire toutes ces personnes qui croient au message de Jésus-Christ, reçoivent le pardon de Dieu. Et le sang de Jésus est en permanence pour pardonner tout péché. Maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Voilà, nous étions éloignés de tout ce que nous avons dit là. Le Seigneur nous rapproche. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Des deux, c'est-à-dire des Juifs et des païens, il n'en a fait qu'un et il nous a rapprochés. Il est notre paix parce que, en fait, entre deux ennemis, il n'y a pas de paix. Et entre nous et Dieu, il n'y avait pas de paix parce qu'on était ses ennemis à cause du péché. Voilà. Mais la Bible dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier. Donc Dieu a réconcilié nos vies, nous sommes maintenant un seul corps, et son sang a fait que nous soyons purs. Voilà. Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous ramène auprès de Dieu. Je voudrais lire encore un autre texte. Toujours ces textes qui vantent le sang de Jésus. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11, la Bible dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez
le Dieu vivant.
Un peu pour donner une certaine image dans ce texte, dans l'ancienne alliance, quand on lit les textes de Moïse par exemple, nous verrons par exemple que Dieu, après avoir sauvé Israël d'Égypte, les avoir délivrés de l'esclavage, les conduisit au désert. Et là au désert, il leur donna les commandements. Quand Moïse monta au mont Sinaï, dans Exode 19, plus tard le Seigneur lui donnera aussi des instructions sur la construction d'une tente qu'on appelle le tabernacle. Et c'est dans cette tente, qu'on appelait aussi la tente d'assignation, que Dieu venait rencontrer le peuple. Il rencontrait Moïse, il rencontrait les souverains sacrificateurs, et Dieu descendait dans la deuxième partie du tabernacle qu'on appelait le lieu très saint. Parce que le tabernacle avait deux parties, il avait le lieu saint et le lieu très saint. Et les deux parties du tabernacle se trouvaient dans une enceinte, une parcelle qu'on appelait le parvis. Et c'est dans la deuxième partie du tabernacle que le souverain sacrificateur y entrait pour aussi demander le pardon du peuple. Et pour demander le pardon du peuple, il devait offrir des sacrifices. Et parmi ces sacrifices, on offrait des animaux. Par exemple, lui-même, le souverain sacrificateur, il offrait un bœuf parce que lui-même aussi c'était un homme. Il pouvait commettre un péché et Dieu avait dit à Aaron de faire attention. Quand il entrait dans le lieu très saint, il devait aussi demander pardon pour sa vie parce qu'il pouvait mourir s'il entrait comme ça, parce que notre Dieu, il est saint. Alors il offrait le sacrifice, il amenait le sang dans le lieu très saint et ce sang faisait que le Seigneur ne puisse pas considérer le mal de l'homme. C'est-à-dire, on tuait un animal. Donc la mort de cet animal, je peux dire, prenait place à la mort que l'homme devait subir. On peut dire que l'homme devait mourir. Mais Dieu dit, bon, ça va à ta place, il faut que autre chose ne meure. Donc l'animal,
innocent.
Voilà, l'animal innocent qui devait mourir, c'était soit le bœuf pour le souverain sacrificateur, il y a eu d'autres, le bélier et la brebis. Voilà, toutes ces animaux ont des sens. L'agneau, on tuait tous ces animaux pour innocenter le peuple de Dieu à cause du sang. Et c'est pour cela qu'il est dit au verset 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, voyez, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache. À Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? » Vous savez, tu sais mon frère, nous marchons sur la terre, nous avons des convoitises des fois. C'est vrai, on peut dire, bon ça va, je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela. Mais il arrive à beaucoup de gens de convoiter. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Est-ce qu'il est facile de ne pas convoiter ? Parce que tout ce qu'en fait nous achetons, nous le convoitons des fois chez quelqu'un d'autre. On peut dire, on a envie. Tu as envie une voiture, tu dis, ah, je veux aussi acheter une voiture comme celle-là. Je veux acheter. S'il faut suivre à la lettre, en fait, on doit suivre tout ça. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Le Seigneur vient et avec son sang purifie même notre conscience des mauvaises pensées qui défilent dans nos têtes. Voilà. Son sang purifie et fait que nous soyons purs. Et je peux encore illustrer cette pensée quand je retournerai dans la scène du temps de Balaam. Un jour, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Balaam lorsqu'Israël sortit d'Égypte. Il l'envoya, c'était pas Dieu, excusez-moi, c'était Balak. Balak, c'était le roi de Moab. Il savait de quoi était capable le peuple d'Israël. Alors, il voulait bien attaquer ce peuple qui était venu dans ses plaines et qui était d'un nombre incalculable. Alors, il décida que Balaam, qui était un devin, un grand devin de l'époque, que celui-ci devait venir pour maudire Israël. Après qu'il aurait maudit Israël, ça lui permettrait de pouvoir se saisir de ce peuple et de le massacrer. Parce qu'en fait, ça c'est une leçon pour montrer qu'il y a de ces hommes sur la terre qui, quand ils maudissent, en tout cas, ils vous laissent à la merci des malheurs. Mais malheureusement pour Balaam, il était devant un obstacle. Le peuple à laquelle Balak l'appelait maudire n'était pas n'importe quel peuple. C'était un peuple racheté, un peuple qui avait eu une rédemption. Un peu pour comparable au texte qu'on a lu, le Seigneur Jésus-Christ nous a amené une rédemption éternelle. Alors, nous lisons le livre de Nombres, chapitre 23, au verset 20. La Bible dit ceci. « Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. » Alors que Balaam se pointait pour maudire, Dieu change les paroles de Balaam. Et Balaam, au lieu de bénir, il dit, « Voici, j'ai reçu l'ordre. »
Tu veux dire, au lieu de maudire,
il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir.
Il donc, a déjà béni, oui, et je ne revoquerai point.
Je ne peux pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Alors, la grande question, c'est cette phrase-là. Comment Dieu ne pouvait pas voir l'iniquité de Jacob, alors qu'avant ce verset, avant même cette phrase, Jacob, c'est-à-dire Israël, le peuple d'Israël, avait déjà commis beaucoup de rébellions. Hein? Déjà en sortant en Égypte, ils ont murmuré devant Dieu plusieurs fois. Plusieurs fois. Et Dieu même a frappé quelques-uns parmi eux plusieurs fois. Et avant cette scène, Israël avait fabriqué le veau d'or. Mais Dieu, alors qu'un monsieur vient maudire ce peuple, Dieu dit, je ne vois pas d'iniquité en Jacob. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà, lors de la célébration de la Pâque, le sang de Jésus était placé sur le linteau. Et au fait, cet agneau-là que chaque maison avait tué préfigurait Jésus-Christ. En fait, c'est vrai qu'à ce temps-là, Christ ne vivait pas. Mais en fait, en réalité, l'esprit de Christ était aussi en eux. Regardez par exemple ce texte de Corinthiens chapitre 10, où on parle, c'était en fait Christ qui les suivait. C'est Christ qui était en eux. Un peu pour dire quoi? Tout ce qu'il faisait à l'époque, ça préfigurait Jésus-Christ.
L'ombre des choses à venir.
Voilà. Donc, le sang de l'agneau couvrait toujours les Israélites. Même quand ils étaient là, c'est vrai, ils avaient des faiblesses. Mais à cause de l'agneau, Pascal, le Seigneur considérait qu'ils étaient son peuple, qu'il avait racheté. C'est ça le sens que nous accordons à ce texte que nous avons lu de Hébreux chapitre 11. Si les animaux, leur sang accordait la pureté, faisait que quand Dieu les regarde, il considérait le peuple saint. Hein, il y avait des cérémonies comme la fête annuelle des expiations, le Yom Kippour. Donc on prenait un bouc qu'on tuait, on prenait son sang, on l'amenait dans le lieu très saint, on demandait le pardon du peuple, on amenait le deuxième bouc vivant. Il fallait mettre poser ses mains sur la tête, confesser tous les péchés du peuple, et on demandait à quelqu'un, bon, tu prends ce bouc, tu l'amènes loin. un peu pour dire que ce bouc, il va emmener loin les péchés des hommes.
Le bouc Azazel.
Voilà, pour Azazel. Donc, en fait, c'était des images qui montraient que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il allait mourir et amener loin le péché des hommes. En mourant sur la croix, il a porté tous nos péchés. Il est parti avec nos péchés. Il est ressuscité. Et aujourd'hui ressuscité, il nous justifie à cause de son sang. Ça, c'est une très bonne nouvelle.
C'est comme tu viens de dire, Jonathan. Il est mort, il a emporté nos péchés loin de nous. Mais c'est son sang qui nous purifie. Ce n'est pas le sang d'un bouc, d'un animal, d'une chèvre ou de je ne sais quoi, ou bien le sang d'un prophète. Non, c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour les péchés de l'humanité. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. » Ésaïe 53, verset 10 dit « Il a plu à l'Éternel de le briser. » Jésus a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Mon frère, ma sœur, peut-être que vous êtes ce demi-mort que le Samaritain est en train de rencontrer en ce moment et il veut vous aider et il veut vous purifier de vos péchés. Mais pour cela, vous devez ouvrir votre porte à sa personne. Ne lui résistez pas, ne foulez pas aux pieds ce si grand salut, cette grâce qu'il est en train de faire à chacun d'entre nous à cette époque. Ne résistez pas, ouvrez-lui les portes de votre cœur. Si c'est cela votre désir, c'est très simple, baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai entendu ton messager, j'ai entendu ton message et je te dis merci. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix pour moi. Merci parce que tu m'as donné l'opportunité aujourd'hui de venir à toi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je prends un nouveau départ maintenant avec Jésus-Christ. Et je m'engage à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain, avec toujours Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous assiste.
Amen.
Amen.
L'émission « Venez à Jésus » vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.